Chapitre 61.
Tu n'as pas dormi ?
Solman s'était réveillé, la tête posée sur le bas-ventre de Khadija assise en tailleur. Elle l'avait recouvert de sa robe sans changer de position et l'avait veillé toute la nuit. Elle ne paraissait ni fatiguée ni engourdie par la fraîcheur surprenante de la brise matinale. Il ne discerna pas une griffure, pas une rougeur sur sa peau qui avait recouvré sa blancheur lisse, immaculée. Elle le fixait avec la tendresse attentive d'une mère couvant son enfant. « Mon corps n'est pas prêt à expérimenter le sommeil, » dit-elle. Les vibrations de sa voix se répercutaient dans son ventre. Il aurait aimé que le temps se suspende à cet instant, qu'il le laisse savourer le plaisir de reposer entre les cuisses de Khadija, de baigner dans son odeur, dans sa respiration, dans son regard. Le jour se levait en catimini aux confins d'une nuit parsemée d'étoiles agonisantes. La surface de l'étang tirait, entre les tiges frissonnantes des roseaux, un miroir gris, terne, incapable de réfléchir les hésitations d'un ciel égratigné par les lueurs naissantes de l'aube. « Je t'envie, » ajouta Khadija. « Tu as l'air d'un enfant quand tu dors. Tu as souvent bougé, tu as même crié.
Sans doute un mauvais rêve.
Il me faudra encore du temps pour accéder au monde des rêves. Pour le verbe, tout doit être conscience.
Tu ne fais plus partie du verbe. »
Elle se pencha pour glisser les mains sous la robe et les lui poser sur la poitrine. Les courbes comprimées et émouvantes de ses seins se suspendirent au-dessus de son front. La chaleur de ses paumes le revigora. « J'aimerais tellement que ce soit vrai, » murmura-t-elle d'une voix imprégnée de tristesse. « Lève-toi maintenant. Nous devons partir. » Ils se rhabillèrent en silence, brutalement chassés de cette douceur matinale qui s'évanouissait comme un Éden à peine entrevu, à peine caressé. Les autres, déjà réveillés, avaient entamé leur repas. Moram les accueillit d'un
« Y'a plus de kawa, bordel !»
qui était une façon toute personnelle de leur souhaiter la bienvenue. Ismaïl paraissait frigorifié dans ses vêtements. Sa tête disparaissait presque entièrement dans le col remonté de sa veste de cuir. Solman lut dans le regard clair de Wolf les tourments d'une nuit sans sommeil.
Vous avez vu ces putains de lumières hier soir ? Demanda Moram en leur tendant une gourde. On aurait dit que des milliers d'étoiles filantes s'étaient donné rendez-vous au-dessus de nos têtes.
Des étoiles filantes ne se seraient jamais présentées en telle quantité et avec une telle cohérence,
intervint Ismaïl après s'être éclairci la gorge.
Ni même une pluie de météorites. Nous n'avons sûrement pas assisté à un phénomène naturel.
Solman mâcha quelques bouchées d'une galette au goût rance avant de déclarer
« Les frères et les sœurs de Benjamin sont arrivés. »
Les trois autres levèrent la tête vers Khadija pour chercher une approbation sur ses traits, dans son regard. Mais elle resta lointaine, impassible, comme si cette discussion ne la concernait pas.
« Ce que vous avez vu, » poursuivit Solman. Ce sont les traces lumineuses des engins chargés de les ramener sur Terre. Sans doute cette sorte de sarcophage individuel, le même type d'appareil que celui dans lequel j'ai trouvé Khadija,
dit Ismaïl.
Je n'ai pas eu le temps de l'examiner à fond. Dommage. La conception me paraît intéressante. Une arche commune, un vaisseau spatial aurait été massive, difficile à manœuvrer. Encore plus gourmande en énergie que le camion de Moram.
C'est vrai ce que racontent les légendes, s'exclama le chauffeur, que des hommes sont allés un jour sur la Lune.
Eh oui. Les derniers programmes spatiaux avant la Troisième Guerre visaient à envoyer des colonies humaines sur Mars, en se servant de la Lune comme base de départ.
Pourquoi pas de la Terre ?
La gravité lunaire est moins forte que celle de la Terre. Les engins ont donc besoin de moins d'énergie pour décoller.
Quel intérêt d'aller sur Mars ?
Le même, je suppose, que les Européens ont eu à émigrer en Amérique. La conquête de terres nouvelles, les promesses d'une vie nouvelle, de richesses nouvelles. De mon observatoire, j'ai vu des dizaines de fusées traverser le ciel. Elles me paraissaient bien volumineuses pour des engins chargés d'expédier de simples satellites. Mais à l'époque, la NASA et l'Eurospace, les deux compagnies qui se partageaient le monopole de la recherche spatiale, avaient prétexté la rivalité des deux grands axes et le secret militaire pour décréter le blackout, le silence total sur leurs travaux. Peut-être qu'un embryon d'humanité est en train de se développer sur Mars. Peut-être que l'histoire de l'homme se poursuit sur la planète rouge.
Ils se mirent en marche avant que le soleil se lève dans un ciel d'un rose flamboyant, presque uniforme. La masse sombre de la forêt reculait au fur et à mesure qu'ils s'en rapprochaient. La plaine délivrait de fausses informations sur les distances, semblait parfois les raccourcir pour mieux les rallonger l'instant suivant. Ils traversaient de véritables grêles d'insectes de toute taille et de toute forme qui préparaient sans relâche l'avènement du nouvel ordre terrestre. Quelques-uns, dérangés dans leur besogne, fondaient sur eux dans un bourdonnement agressif, puis s'en repartaient au bout de quelques secondes d'un survol menaçant. Les mares s'asséchaient, se réduisaient pour certaines à un fond de vase craquelé sur les bords. Sa jambe gauche se rappela rapidement au bon souvenir de Solman. Mais un bref regard lui apprit qu'il n'était pas le seul dans ce cas. La démarche chancelante d'Ismaïl, le dandinement fourbu de Moram et la légère claudication de Wolf montraient que l'étape de la veille avait laissé des traces dans les organismes. Khadija, dont l'allure ne faiblissait pas, prenait souvent de l'avance sur les quatre hommes et s'arrêtait régulièrement pour les attendre. Elle marchait alors un moment aux côtés de Solman. Il essayait de se caler sur sa foulée aérienne, d'épouser le rythme à la fois soutenu et délié de ses pieds nus, mais elle finissait par le distancer sans s'en apercevoir, le regard tendu vers la forêt, comme attiré par le chant de ses frères et de ses sœurs. Parfois, il relevait la tête et apercevait sa chevelure noire et sa robe grise une cinquantaine de pas devant lui, flottant au-dessus des herbes comme un songe. Il serrait les dents, accélérait le train, dépassait Ismaïl, Moram et Wolf égrenés sur la piste, puis la douleur se coulait dans sa jambe torse comme un serpent venimeux, montait le long de sa colonne vertébrale et l'obligeait à ralentir. Il devait ensuite en appeler à toute sa volonté pour se raccrocher au train de Wolf, le premier à le rattraper. Il aurait aimé, ne fût-ce que quelques secondes, disposer de deux jambes valides, éprouver cet extraordinaire sentiment de liberté et de légèreté que procure un corps sain. Le soleil brillait de tous ses feux et déposait une chaleur éprouvante, miroitante, sur la plaine. La forêt de l'Île-de-France occupait à présent une grande partie de l'horizon, murailles sombres plantées au milieu d'un océan vert. Des scintillements trahissaient la présence d'étangs, de ruisseaux ou de mares au milieu des ondulations. Le ciel avait toujours ses tons mauves qui teintaient la lumière du jour de reflets inhabituels, oniriques. « Je situe l'orée de cette putain de forêt à environ 10 kilomètres, » marmonna Moram, avant de porter la gourde à ses lèvres. « Et vous ?» Il n'avait pas eu besoin de se consulter pour décider d'une pause, gagnée par le même épuisement, par le même découragement. Khadija parcourut encore une bonne centaine de pas, avant de se retourner et de se rendre compte qu'ils étaient restés en arrière.
« C'est pas humain de cavaler à cette allure-là, sans jamais avoir besoin de souffler, » ajouta le chauffeur en la désignant d'un mouvement de menton.
« C'est peut-être nous qui ne sommes plus tout à fait des humains, »
dit Solman avec un sourire crispé. « Wolf et moi avons des tares génétiques. Ismaïl accuse le poids des ans. Et toi, tu es perdu sans ton camion, sans ton kawa. Si nous étions en accord avec les lois de Mère Nature, nous pourrions sans doute marcher pendant des jours sans nous fatiguer.
Tu penses réellement que Khadija et ceux de sa tribu sont en accord avec Mère Nature ?
Ils utilisent un langage que nous ne connaissons pas, ou que nous avons oublié. Mais s'ils ont envoyé Catherine et Khadija,
c'est que quelque chose leur manque, quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont perdu. Nous, nous sommes marqués par les erreurs de nos ancêtres, de notre histoire. Eux, ils se sont fourvoyés dans un avenir bloqué, figé.
L'avenir n'est jamais figé, ou alors ce serait à désespérer de tout.
S'ils ne désespéraient pas, Moram, ils n'auraient pas condamné les hommes à l'extinction. Leur volonté d'extermination n'est que l'écho d'une peur immense, inimaginable.
Putain, qu'est-ce qu'on va foutre au milieu de ces jobards? Leur montrer que la vie est plus forte que la peur, peut-être.
Ouais. Pour l'instant, je serais plutôt de leur côté. Pour ce qui concerne la peur, je veux dire.
Un martèlement puissant et continu ébranla la poitrine de Solman. Il pensa d'abord que son cœur s'était emballé, s'immobilisa et palpa ses jugulaires. Mais même plus précipité que d'habitude, son rythme cardiaque n'était en rien responsable de ce grondement sourd qui résonnait dans sa cage thoracique comme un roulement d'orage.
« Solman ?»
Il ferma les yeux, lâcha la main de Khadija, qui avait calqué son allure sur la sienne à l'issue de leur dernière halte, et s'efforça d'oublier les tiraillements de sa jambe pour se concentrer sur la vision. Le martèlement résonnait dans son silence intérieur avec une puissance inouïe, difficilement supportable. Il ignora les réflexes de peur qui le poussaient à remonter à la surface, à retrouver la tranquillité apparente de la plaine inondée de lumière. Il considéra le vacarme comme une partie inhérente de lui-même, s'y immergea entièrement, découvrit que le bruit n'était que l'autre face du silence, la rumeur de la création. Une ondulation qui se propageait comme une poignée de fil dans la trame. Un mouvement qui prit subitement la forme de milliers de sabots frappant le sol en cadence. Un déferlement de masse sombre, lancé à pleine vitesse vers le but que leur assignait leur instinct. Un troupeau de vaches sauvages fonçait dans leur direction, étalé sur une largeur de plusieurs kilomètres. Membres noueux, sculptés par l'effort, flancs arrondis, noirs, blancs, tachetés, luisants. Coups massifs. Cornes incurvées, plus effilées que des aiguilles de pin, naseaux écumants, pies roses ou pigmentées. Elles avaient déjà parcouru une longue route. Mais la cohérence du troupeau conduit par les grands mâles compensait les défaillances individuelles. Les attardés les plus faibles subissaient les assauts meurtriers des meutes de chiens sauvages et de lynx qui accompagnaient la migration tout en gardant une distance prudente avec le gros du troupeau. Les veaux qui avaient eu la mauvaise fortune de naître avant le départ n'avaient aucune chance d'arriver à destination malgré la protection farouche de leur mère.
Des vaches sauvages, elles arrivent sur nous.
Solman sortit de la vision avec une telle précipitation qu'il lui sembla pendant une fraction de seconde flotter entre deux endroits, entre deux moments. Le front de Moram se plissa de désapprobation.
C'est tout de même pas une poignée de bestiaux à cornes qui vont... Elles sont des milliers !
Une migration massive, dit Wolf. Ça n'arrive pas souvent, tous les 20 ans environ. Elles viennent du sud de l'Europe, de l'Espagne, de l'Italie, de tout le littoral de la Métrée. Elles se rassemblent dans le delta du Rhône et montent toutes ensemble vers les plaines du Nord. Ça leur permet de mieux se défendre contre les prédateurs. Elles laissent les herbages en jachère tout l'été et reviennent avant les grands froids.
Comment tu sais ça, toi ?
Grogna Moram.
J'ai parcouru toutes les pistes d'Europe, j'ai jamais vu ce genre de truc. Ni même n'en ai entendu parler, j'ai plutôt l'impression que c'est un coup de ces tribus de malheur. Comme les étoiles filantes d'hier soir.
Son regard soupçonneux se posa sur Khadija qui ne lui apporta pour toute réponse qu'une indifférence souveraine.
Je ne crois pas. Dit Wolf. Les vaches montent parfois jusque dans les pays baltes. Enfant, j'ai écouté les anciens raconter leur histoire. J'ai assisté à une battue organisée par les tribus scorpiotes.
Tu veux dire que vous bouffiez ces saloperies de bêtes? Cette viande sauvage infectée? C'est le lot des scorpiotes que d'être infecté,
répondit Wolf avec une pointe d'agressivité. Mais nous ne les mangions pas. Les chasses servaient seulement à les éloigner des campements. Les orages, les mouches, les moustiques peuvent les rendre folles. Quand elles paniquent, elles écrasent tout sur leur passage.
En outre, elles attirent les hordes de... » Il s'interrompit comme frappé par une évidence, demeura pendant quelques instants en silence, à l'écoute du frissonnement des herbes, des chuchotements de la brise, des bourdonnements des insectes. « Elles ne sont pas loin. Environ une dizaine de kilomètres.
Elles non plus n'ont jamais besoin de se reposer.
Seulement en fin de journée. Nous ne serons à l'abri que dans la forêt. Si nous ne l'atteignons pas avant elles, elles nous réduiront en bouse, c'est ça ?»
La course dilapida rapidement les maigres forces que leur avait redonné la proximité du danger. L'un après l'autre, ils lançaient des regards en arrière pour essayer de visualiser une menace dont ils ne percevaient pour l'instant qu'une rumeur ténue, un bourdon grave. Les insectes, avertis par leur instinct, s'étaient retirés en abandonnant une plaine figée sur laquelle la brise faiblissante n'avait plus de prise. Les quatre hommes s'étaient débarrassés de leurs vestes. Solman avait glissé le livre de Raïma dans sa tunique et l'avait en partie coincé dans la ceinture de son pantalon. Moram et Wolf portaient à tour de rôle le sac de vivres qu'ils se passaient sans un mot ni un geste superflu. Khadija maintenait sa robe retroussée sur les cuisses afin de ne pas être entravée par l'étoffe. Elle évoluait avec une aisance que lui enviait Solman. Disloqués par chacune de ses foulées, les muscles tétanisés, les yeux voilés de rouge, les poumons brûlés, il évitait de fixer la forêt, de peur d'être découragé par la distance qu'il leur restait à parcourir, gardait les yeux rivés au sol. Les pointes de ses bottes hantaient son champ de vision comme des apparitions opiniâtres, sans cesse chassées et ramenées par le mouvement de ses jambes. Il luttait contre la tentation insidieuse, obsédante, de renoncer, s'agrippait à des images, à des souvenirs, à la bouille enfantine de Glenn dans le bunker de Tours, à la face déformée de Raïma, à la moustache de Chuck, à la rondeur de Guenuver, au tic d'Irwan, à la sécheresse de Catherine, au sourire de Mirgwan puisé dans la mémoire de Wolf, à tous ces hommes et ces femmes morts ou vivants qui avaient tissé la trame de son existence. Il ne lui appartenait pas de les juger, ni en bien, ni en mal, mais de les accueillir, de les aimer, tous, sans exception. Tous les souffles enfermés dans le moi humain, tous les fils entrecroisés.
Un bruit mat brisa le cours hypnotique de ses pensées.
Il n'eut pas le temps de se retourner. Ses jambes se dérobèrent dès qu'il cessa d'être porté par la force dynamique. Il s'écroula dans l'herbe, les yeux brouillés de larmes. Il crut voir Moram et Wolf s'affairer autour du corps inerte d'Ismaïl. Une ombre se déploya au-dessus de lui, et il reconnut sur son front, sur son nez, le souffle tranquille de Khadija. Elle lui retira ses bottes, sa tunique empesée de sueur, posa le livre dans l'herbe, puis lui glissa le goulot d'une gourde entre les lèvres. Bien que tiède, l'eau apaisa le feu de sa gorge, de ses poumons, de son ventre. Il attendit que se modèrent les battements de son cœur pour se redresser. Lutta pendant quelques secondes contre une sensation de nausée, de vertige. Se rendit compte que Khadija, accroupie derrière lui, le tenait par les épaules. Il reprit progressivement conscience de la précipitation de son souffle, de la contraction de ses muscles, de la tension de ses nerfs, des rigoles de sueur qui s'insinuaient sur son torse et collaient ses cheveux à son cou. Il songea, avec un brin d'amertume, que Mère Nature n'avait pas été très charitable de lui donner un esprit visionnaire dans un corps débile. C'était comme inviter un affamé à un banquet dans le seul but de susciter son envie. Puis il tourna la tête vers Khadija, lui sourit, et se dit qu'il n'était sans doute guère préférable d'avoir un esprit emprisonné dans un corps sain. Ismaïl n'aurait pas la force de repartir. Son teint cireux, ses cernes profonds, la résignation qui se lisait dans ses yeux ternes indiquait que la mort s'était déjà étendue sur lui. Moram et Wolf l'avaient compris, qui, agenouillé à ses côtés, avait cessé de l'encourager à se battre.
« Partez, partez,
murmura Ismaïl.
« Je vous retarde. »
Solman ramassa le livre, se leva, et toujours soutenu par Khadija, s'avança vers le vieil homme d'une démarche chancelante. Il ressentait une profonde émotion face à ce corps enfin vaincu par les ans. Le lien entre l'humanité de l'ancien temps et les derniers hommes était sur le point de se rompre. Avec Ismaïl, c'était tout un pan de l'histoire qui s'effondrait, qui sombrait dans l'oubli.
« Ne vous faites pas de soucis pour moi. J'ai vécu déjà trop longtemps. Je m'en vais heureux, heureux de vous avoir connu, heureux de quitter ce monde, heureux de découvrir l'autre. »
« Ça ne vous intéresse donc pas, de savoir ce qu'il y a dans cette pute, dans la forêt ?» demanda Moram.
« Je crois l'avoir deviné. Je me trompe peut-être, mais j'emporterai mon hypothèse avec moi. Ce sera à vous de découvrir la vérité. La vérité. Est-ce qu'il y a seulement une vérité ?
La vérité, c'est nous qui la décidons, fit le chauffeur.
C'est juste. À vous de décider de votre vérité. Je pars avec mes vérités. Avec les erreurs de l'ancien monde.
Wolf se redressa, comme propulsé par un ressort, et gravit en quelques foulées une petite butte au sommet coiffé de rochers.
« Elles arrivent !»
Il désignait la vague sombre qui, derrière eux, barrait tout l'horizon. La plaine n'offrait aucune possibilité d'abri, et l'énorme troupeau, lancé à toute allure, aurait fondu sur eux bien avant qu'ils n'atteignent l'orée de la forêt. Solman refoula une montée de panique, contrôla sa respiration, ferma les yeux, déploya la vision. Il perçut le chant de la mort dans son silence intérieur. La mort qui s'emparait d'Ismaïl. La mort qui s'avançait entre les vaches sauvages. La mort qui l'appelait, qui l'attendait.